Chapitre 3. Everest. Après l'univers très urbain de la City, des salles des marchés qui sentent le renfermé et des problématiques d'argent et de sexe très terre à terre, il est temps de prendre de la hauteur sur les plus hauts sommets du monde. Mais avant d'aller à la rencontre de grands alpinistes de renom, je commencerai par vous raconter une expérience personnelle instructive. Il y a 9 ans, nous sommes partis, Madeleine, qui n'était pas encore ma femme, et moi, dans l'Himalaya, pour y effectuer un trek sac au dos. Le voyage promettait d'être un brin sportif, avec des ascensions à plus de 5000 mètres et le minimum pour vivre, l'idée étant de se couper entièrement du monde moderne. Après quelques jours d'acclimatation dans notre ville de départ, le trek put enfin démarrer, et après une journée de marche, notre groupe atteignit le village de Yangtan, à 3500 mètres d'altitude, au moment même où des Espagnols, arrivés la veille, pliaient bagages pour s'en aller plus loin, vers le village de Rizong. Et nous pûmes y installer nos tentes en hauteur, tout contre les parois rocheuses de l'immense montagne. Cette nuit-là, un terrible orage éclata, accompagné d'éclairs aveuglants et de puissants grondements de tonnerre. En quelques minutes à peine, il se rapprocha dangereusement pour élire domicile juste au-dessus de nos têtes. La caisse de résonance de la chaîne montagneuse amplifiait le roulement sourd qui faisait penser à un essaim d'abeilles. Cela commençait à devenir angoissant, d'autant plus qu'en altitude, l'orage n'est pas votre ami. Votre équipement, qu'il s'agisse de piolets, de bâtons de marche ou des 2 piquets verticaux métalliques de votre tente, peut se transformer en paratonnerre et attirer la foudre sur vous. Au réveil, le bilan était lourd. Des coulées de boue et des pierres étaient tombées des montagnes, détruisant tout sur leur passage. La plupart des ponts au-dessus des rivières que nous avions traversées s'étaient effondrés à cause des crues. Le groupe d'Espagnols croisés la veille était porté disparu, tout comme le chauffeur du 4x4 qui devait nous rejoindre ce jour-là pour nous ravitailler. Toutes les communications étaient coupées, laissant notamment notre guide et son équipe sans nouvelles de leur famille. Notre seule option, rebrousser chemin, pour regagner l'Ée, en empruntant un pont à moitié détruit, mais encore praticable quelques heures. Il était le premier obstacle d'une longue série. Ainsi, nous fallut-il traverser dans l'eau, cramponnés à une corde tendue d'une rive à l'autre, plusieurs torrents de boue, sans nous laisser entraîner par les courants extrêmement forts qui charriaient des troncs d'arbres et des morceaux de toiture. Après quelques heures de marche au milieu des réfugiés de la catastrophe qui se dirigeaient tous vers l'Ée, nous pûmes monter dans des camions militaires qui chargeaient les survivants par paquets de 50. Il nous fallut changer plusieurs fois de bétaillère à cause de ponts détruits ou des sables mouvants. Durant ces trajets en camion, nous sympathisâmes avec de nombreux Indiens, qui gardaient tous la bonne humeur, malgré le drame qu'eux et leur famille vivaient. Leur comportement forçait le respect, et avait pour effet de créer une sorte de contre-feu émotionnel à la sinistrose ambiante. Je me souviens de ce grand-père, sage parmi les sages, qui relativisait, en nous parlant du sens de l'aventure à l'indienne, de ces femmes qui se poussaient chaque fois pour nous faire de la place, de ces dizaines d'habitants des différents villages que nous traversions, prêts à nous donner un coup de main chaque fois que c'était nécessaire, ou encore de ces enfants qui nous redonnaient le sourire en plaisantant sur tout et rien. Aucune panique ne se lisait sur leur visage. Cela eut vraiment pour effet de nous décontaminer de toutes nos angoisses, nos peurs et de notre tristesse. Mais en arrivant à Lé, une chape de plomb s'abattit à nouveau sur nous. La ville était ravagée, à moitié couverte de boue. Il n'y avait quasi plus d'électricité, toutes les lignes téléphoniques étaient saturées, des centaines de personnes étaient mortes et des milliers disparues, nous expliquèrent des policiers. Au milieu de ce désastre, des hordes de touristes européens contrariés par la lenteur des processus de rapatriement, fâchés contre leurs ambassades et leurs agences de voyage, s'agitaient. On entendait particulièrement les Français pester et râler à haute voix. Beaucoup d'entre eux, paniqués, assiégeaient les cybercafés et les alentours de l'aéroport, se souciant finalement peu de la misère des locaux. Pourtant, très vite, ces sautes d'humeur collectives s'estompèrent. Les Indiens, en majorité bouddhistes dans cette région, calmait les sursauts des surexcités par de simples sourires. Au bout de quelques heures, une ambiance apaisée et sereine s'était installée en ville. Au détour d'une rue, nous croisâmes un grand-père tout de blanc vêtu, le dernier iPhone dans la main, en train de passer un coup de fil. Cela n'avait pas de sens, le réseau était saturé et il n'y avait plus d'électricité. Nous l'abordâmes tout de même pour lui demander s'il pouvait nous dépanner, histoire de rassurer toute notre famille en France. Il nous tendit son téléphone et nous demanda de composer le numéro que nous souhaitions joindre. Trois tentatives d'appel plus tard, cela ne marchait pas. Il nous demanda alors un instant, s'éloigna et disparut dans la foule. 15 minutes plus tard, il revint avec son téléphone, me le colla contre l'oreille. Et là, à l'autre bout du fil, j'entendis la voix du père de Madeleine. C'est ça l'Inde. Un territoire où l'improbable devient probable, et où, dans des mouvements de foule angoissants, les sourires font apparaître une lueur d'espoir. Les survivants. Cette contagion émotionnelle, notamment celle de la peur, nous l'avons expérimentée à plusieurs reprises lors de notre périple indien. Mais ce n'est rien à côté de ce que certains alpinistes et autres survivants à haute altitude que j'ai eu la chance de rencontrer ont vécu. Par exemple, Fernando Parado, dit Nando, l'un des 16 rescapés du vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya, qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes il y a presque 50 ans. Leur histoire, une des plus bouleversantes sur la survie d'hommes en milieu hostile, a fait le tour du monde, après avoir été adaptée en livre, au cinéma, et fait l'objet d'un documentaire primé. La voici, telle que racontée par Nando, sous l'angle des émotions qui nous intéressent ici. Le 12 octobre 1972, décolle de l'aéroport international de Carrasco, à Montevideo, un charter affrété par une équipe de rugby amateur, les Old Christians, pour aller disputer un match amical à Santiago du Chili. L'appareil en question est un Fairchild FH-227 de la Force aérienne uruguayenne. Surnommé par les spécialistes de l'aéronautique « cul de plomb » en raison de son poids et de la capacité limitée de ses moteurs, ce type d'appareil n'offre pas les meilleures garanties en termes de sécurité. Un tiers d'entre eux, parmi les 78 fabriqués, s'étant déjà crashé. Mais ça, les 40 passagers à son bord l'ignorent. Nando et les autres joueurs, qui ne roulent pas sur l'or, ont eu le droit d'inviter de la famille ou des amis à voyager gratuitement avec eux, car il restait quelques places dans l'avion. Ainsi, Nando a-t-il proposé à sa mère, Eugenia Parado, âgée de 50 ans, et à sa sœur, Suzy, 17 ans, de l'accompagner. D'autant que le voyage doit durer 4 jours et permettre, au-delà du match à jouer, à tout le monde de profiter d'un week-end ensoleillé sur les rives du Pacifique. Mais rien ne se déroulera comme prévu. Le crash. En raison des conditions climatiques difficiles, l'avion doit se poser à Mendoza, en Argentine, au pied de la cordillère des Andes. Les passagers y passent la nuit, attendant que le temps s'améliore. Le lendemain, un vendredi 13, l'appareil redécolle. Le colonel Julio Ferradas, pilote expérimenté, qui a déjà franchi 29 fois la cordillère au cours de sa carrière, décide de la traverser par un chemin détourné vers le sud pour la survoler à plus basse altitude. Cela pour éviter de mettre son avion à trop rude épreuve, ce dernier ayant d'énormes difficultés à atteindre 15 000 pieds. Une fois la traversée terminée, il remettra le cap sur le nord et Santiago. À bord de l'appareil, l'ambiance est très bonne. Nando, assis d'abord près du hublot, change de place avec son meilleur ami, Panchito Abal, qui veut à son tour profiter du paysage. Un fait anodin, mais qui au final scellera le destin des deux hommes. Ce jour-là, à 15h24, le pilote annonce à la tour de contrôle qu'il survole Curicó, persuadé d'avoir franchi les Andes et d'être passé côté chilien. En réalité, il est encore au-dessus des montagnes. Une erreur de calcul inexplicable. Il oblique alors vers le nord et peu de temps après, amorce sa descente vers ce qu'il pense être les plaines du Chili. Derrière l'épaisse masse nuageuse à travers laquelle l'avion plonge, se dissimulent d'énormes montagnes. Constatant avec effroi, en sortant du matelas nuageux, qu'il n'est pas là où il aurait dû être, le pilote tente par des manœuvres désespérées d'éviter les pics rocheux qui se mettent en travers de son chemin. Secoués, les passagers sont scotchés à leur siège, les ceintures fermement bouclées, et l'ambiance à bord se met à changer. Plus personne ne parle. Un survivant, Carlitos Paez, déclarera « On avait tous peur, et la peur se transforma vite en panique. » Tout à coup, l'avion percute un pic, avant de heurter le sol, détruisant au passage ses deux ailes et arrachant sa queue. Le fuselage s'écrase dans un épaulement, dévalant à une vitesse vertigineuse une pente très raide recouverte d'une épaisse couche de neige. La descente de toboggan folle se termine 1500 mètres plus bas. La tour de contrôle, qui était en liaison avec le pilote une minute plus tôt, perd tout contact radio avec l'appareil. La dernière image qu'aura Nando, avant de s'évanouir, sera celle du toit de la cabine de l'appareil qui s'est arraché. Toutes les opérations de recherche aussitôt engagées échouent. Cela s'explique notamment par les conditions climatiques extrêmes, c'était la saison des neiges, et la couleur blanche de la carlingue du Fairchild FH-227 qui la rend invisible dans le paysage enneigé. En toute logique, les survivants, si jamais il y en a, sont condamnés. La peur collective. En fait, 12 personnes ont péri au moment du crash, dont le pilote et la mère de Nando. Nando, quant à lui, est gravement blessé. Il a été projeté vers l'avant de l'avion, sa tête heurtant au passage plusieurs obstacles. Son corps est inerte, mais il respire. Il est installé au bout de la carlingue, au niveau de la cabine, avec les autres blessés. Les cadavres, quant à eux, sont emmenés dehors, dans la neige. Le copilote, Dante Lagurara, gravement blessé mais conscient, est prisonnier des tôles. Il répète sans cesse « On a passé Curico », signe qu'il n'a pas pris conscience de la terrible erreur d'appréciation que le pilote et lui ont commise. Les survivants sont donc persuadés qu'ils se trouvent sur le versant ouest de la cordillère des Andes, alors qu'ils sont coincés dans une vallée glaciaire au beau milieu des Andes à 3600 mètres d'altitude. Un endroit éloigné de tout, et qui n'avait jamais été vraiment exploré, environné de pentes abruptes et glacées, de hauts rochers noirs. Une peur collective, d'une rare intensité, est palpable. Ce qui me fait penser à ce que m'a raconté un jour Wilco van Rooyen, un célèbre alpiniste néerlandais qui a survécu à l'une des pires tragédies de l'histoire récente de l'alpinisme, communément appelée le désastre du K2, dans laquelle 11 alpinistes de diverses nationalités ont trouvé la mort. Pour atteindre le sommet, Wilco et les autres grimpeurs avaient emprunté le bottleneck, une route périlleuse. L'alpiniste Dren Mandic avait un problème avec sa bouteille d'oxygène. Pour rejoindre un membre de son équipe qui saurait l'aider, il se détacha de la ligne de vie, comprenez de la corde fixe, bafouant l'une des règles élémentaires de sécurité, perdit alors l'équilibre et fit une chute mortelle sous les regards médusés des autres alpinistes. À partir de ce moment, m'a confié Wilco, il y avait la peur, l'incrédulité et principalement des doutes qui ont envahi nos têtes. Quoi faire? Comment agir? Est-ce que l'alpiniste tombé peut encore être sauvé? Quelqu'un va-t-il voir de plus près? Les gens se questionnaient intérieurement. La première réaction est le refus d'y croire. Mais après quelques secondes, tu réalises que cela s'est réellement passé. Cet accident fatal éveilla la conscience du danger au sein des alpinistes présents ce jour-là. Il y avait un risque mortel à continuer l'ascension. Des dizaines de questions taraudent également les Uruguayens prisonniers de leur avion. Mais contrairement à Wilco et ses compagnons, ils ne connaissent strictement rien de la haute montagne ni des techniques de survie à adopter. Dans leur pays, le plus haut sommet culmine à environ 500 mètres. Ils ne sont non plus ni habillés ni équipés pour affronter de telles conditions extrêmes. Ils sont très vite obligés de s'organiser pour ne pas mourir de froid, jusqu'à moins 30 degrés la nuit. Ils se réfugient dans la carlingue, des housses de coussins font office de couverture, les brèches dans la coque sont colmatées avec les valises, ils fourrent leurs chaussures avec de la mousse de remplissage qu'ils récupèrent en déchirant des fauteuils. Ils se serrent les uns contre les autres. La plupart de ces bonnes idées ont été inspirées par Roberto Canessa, un adolescent de 19 ans au caractère bien trempé qui fait médecine. La première nuit est terrible et semble durer une éternité. Le lendemain matin sont retrouvés morts le copilote et Panchito Abal, celui qui a échangé sa place avec Nando, ainsi que deux autres passagers. Néanmoins, ce deuxième jour, une brève lueur d'espoir est apparue lorsqu'un avion est passé au-dessus de leur tête. Malgré leurs cris, il a tracé son chemin sans les voir. Les rescapés comprennent alors que leur survie va être très compliquée. Mais ils décident quand même de se battre. Le chacun pour soi. Dans de telles circonstances, face à la peur, il y a deux comportements de groupe possibles. C'est soit chacun pour soi, soit un pour tous, tous pour un. Dans le cas du désastre du K2 que j'évoquais précédemment, le chacun pour soi prévalut. Lors de la descente du sommet, les choses en effet se compliquèrent, comme le raconte Wilco van Rooyen. Les membres de l'expédition norvégienne, dans le sens du retour, atteignirent les premiers le haut du bottleneck, qui est surplombé sur une centaine de mètres par d'imposants blocs de glace, des séracs. En empruntant ce tronçon cette nuit-là, un des Norvégiens, Rolf Bae, fut emporté par une chute de séracs qui sectionna par la même occasion les cordes fixes. Wilco et tous les grimpeurs qui venaient après les Norvégiens avaient désespérément besoin de ces cordes pour franchir le couloir. Ils se retrouvaient donc prisonniers là-haut, à plus de 8000 mètres de haut, dans la zone de la mort, où l'hypoxie, manque d'oxygène, dû à l'altitude, peut engager des dysfonctionnements cérébraux, des hallucinations, des maux de tête, des pertes de conscience et d'autres symptômes tels que vomissements, baisse de la vision, perte de mémoire, vertige et sommeil agité, fatigue extrême, difficulté à se déplacer et à prendre des décisions logiques, etc. Certains n'arrivent plus à contrôler leurs mouvements. Plus grave, on peut faire des œdèmes respiratoires ou cérébraux, m'explique Samuel Vergès, chercheur physiologiste à l'INSERM. L'espérance de vie y est très courte. C'est Wilco qui raconte. Si au départ l'aventure était une aventure solidaire, cela se transforma vite en chacun pour soi. Les grimpeurs qui avaient atteint tard dans la journée le sommet et qui entamèrent la descente au coucher du soleil étaient bloqués là-haut. Ils cédaient tous à la panique et partaient dans différentes directions sans vraiment réfléchir, ne manquant pas de se perdre ou d'emprunter des voies dangereuses. Certains n'allaient jamais revoir le camp 4, situé à 7800 mètres d'altitude environ. Des alpinistes en panique commençaient même à loucher sur les bouteilles d'oxygène et les cordes des autres. Nous avions décidé, avec Marco Confortola et Gérard McDonnell, deux autres guides, de ne pas les imiter et d'installer un bivouac à 8350 mètres. Nous avions peur car nous ne trouvions pas les cordes pour franchir le bottleneck. Nous ignorions à ce moment-là ce qu'il s'était passé. Et nous étions terriblement en colère. Nous étions sujets à des doutes gigantesques. Nous n'étions même plus certains d'être au bon endroit, sur le bon côté de la montagne. Gérard s'est alors refermé comme une huître. Marco et moi, nous cherchions à garder la tête froide et à maintenir le dialogue. Nous poursuivrions la recherche des cordes fixes, mystérieusement disparues le lendemain matin, à la lumière du jour. Le jour suivant, je me rendis compte que je perdais la vue. J'étais atteint de la cécité des neiges, car mes yeux avaient été surexposés aux rayons ultraviolets et à la réverbération. J'annonçais alors à Gérard et Marco que je n'avais plus de temps à perdre, et je pris la décision de descendre seul, dans l'espoir de trouver un autre chemin que le passage du bottleneck condamné, qui pourrait me mener au camp 4. Mes deux camarades ne m'ont pas retenu. À ce stade-là, plus personne ne cherchait à convaincre quiconque. Nous avions perdu tout contrôle, toute mainmise sur le cours des choses. Chacun voulait sauver sa peau et suivait ses émotions. Gérard partit dans une direction, s'égarant en montée, apparemment confus. Marco tenta de manière suicidaire de traverser le bottleneck sans corde et avec son seul piolet, sans doute victime lui aussi de délires et d'hallucinations. Wilco, à moitié aveugle, emprunta un chemin différent. Seul, sans sac de couchage, ni nourriture, ni eau. Pendant 3 jours, il fut porté disparu. Il rencontra sur son passage des alpinistes désœuvrés, certains emmêlés dans leurs propres cordes. Dans des conditions aussi difficiles, avec des émotions trop fortes à gérer, une hypoxie aggravant le tout, il suffit d'un rien pour que tout déraille et parte en grand n'importe quoi. Par miracle, Marco et Wilco furent retrouvés en piteux état, mais vivants, à des endroits différents, par le Sherpa Pemba Gyalje, véritable héros de cette tragédie, tant il aura sauvé de vie. Vilko avait passé deux nuits dans la zone de la mort, ce qui en soi était un record, perdant au passage tous ses doigts de pied, victime de gelures. Gérard, quant à lui, avait péri, sans doute emporté par une avalanche. Tous pour un et un pour tous. Contrairement au groupe de Vilko, les survivants des Andes choisissent, dès les premiers moments, de rester soudés face à l'adversité. Ainsi, ils organisent un rationnement. Ils ne disposent en réalité que de très peu de nourriture. Bonbons, chocolat, une boîte de conserve de sardines, l'équivalent de quelques verres d'alcool, de la confiture et du dentifrice, en guise de dessert. Leur stock de nourriture, selon les experts, correspond aux besoins caloriques de 10 personnes adultes pendant 24 heures. Ils se le partagent en mini-bouchées et cuillerées à thé. La seule chose dont ils disposent à volonté, c'est de l'eau, qu'ils obtiennent en faisant fondre au soleil de la neige via un procédé artisanal. Bref, ils restent unis dans cette galère. Le fait qu'ils sont originaires d'un même pays, qu'ils se connaissent bien et ont en commun des valeurs et des schémas de pensée similaires, les aide sans doute à gérer plus facilement la tension émotionnelle provoquée par la situation critique. Car, à en croire Vilko, lors du désastre du K2, ce qui a disloqué l'esprit d'équipe était d'ordre culturel. Il y avait comme une division au sein du groupe. En fait, 70 grimpeurs, de 15 nationalités différentes, qui pour la plupart ne se connaissaient pas et pratiquaient l'alpinisme différemment, qui tentaient l'ascension le même jour, profitant de la même fenêtre de tir climatique, ce qui les avait obligés à unir leurs forces et à se coordonner pour fluidifier l'ascension. Quand ça commençait à virer au cauchemar, l'intolérance pointait le bout de son nez et les gens ne se comprenaient plus. Les réactions émotionnelles étaient différentes selon la nationalité des uns et des autres. Certaines de ces réactions étaient comprises, d'autres non. L'Asie s'opposait à l'Europe, mais aussi le Népal au Pakistan. L'irritation se faisait sentir, et cette dissonance émotionnelle jouait un rôle de plus en plus important dans les prises de décision. Le dimanche, Nando Parado, laissé pour mort, semble revenir à la conscience après 3 jours de coma. Son cerveau commotionné a été, de l'avis des neurologues, comme protégé par l'état d'hypothermie dans lequel il était. En effet, Nando, qui avait été placé à l'entrée de la cabine, l'endroit le plus froid de la carlingue, avec les blessés graves, s'est retrouvé finalement dans des conditions optimales pour guérir. À peine ouvre-t-il les yeux qu'il demande des nouvelles de sa mère et de sa sœur. Il est abattu par ce qu'ils lui apprennent. La première est morte et la seconde gravement blessée. Elle mourra le 7e jour dans ses bras. Au 10e jour, les survivants perdent définitivement espoir de voir les secours débarquer en entendant sur un petit transistor portatif que les opérations de recherche sont abandonnées et que les survivants ont été déclarés morts. Assommés par ce coup de massue, certains s'effondrent en pleurs sur le sol neigeux. Et pour ne rien arranger, Carlitos Paez informe Nando qu'il n'y a plus rien dans le garde-manger. C'est à ce moment-là que Nando, regardant son ami dans les yeux, lui dit « J'ai décidé de manger le pilote. » La faim. Poussé par la faim, un être vivant est prêt à tout. Lorsque vous êtes privé de nourriture, votre organisme fonctionne en circuit fermé, puisant ainsi dans ses propres réserves de sucre, de graisse et de protéines. Mais 3 jours suffisent à épuiser les réserves en sucre situées au niveau du foie et dans les muscles. Apparaissent alors une sensation de faim, due à une diminution du taux de glucose dans le sang, et des crampes d'estomac. Le corps tire encore de l'énergie des tissus adipeux, la graisse, dont la réserve sera épuisée au bout de 2 semaines. Passé 10 jours, l'organisme doit impérativement consommer des protéines. Notre foie fabriquant du sucre à partir des acides aminés issus de la destruction des protéines des muscles. Sinon, l'affamé s'affaiblit très vite, perd du poids, peut ressentir une forme de dépression et de l'anxiété hautement contagieuse au sein d'un groupe d'individus soumis aux mêmes restrictions. À partir du 20e jour, son rythme cardiaque diminue, bradycardie, et sa tension artérielle s'effondre. Il est alors en proie à des étourdissements et des maux de tête importants, altérant sa concentration et sa lucidité. Il éprouve de grosses fatigues, des douleurs musculaires, sa température corporelle baisse, il peut avoir des crampes abdominales, souvent saigne des gencives et devient insomniaque. Au bout de 40 jours de jeûne forcé, l'organisme est poussé dans ses derniers retranchements. On observe alors chez l'affamé, qui a perdu entre 18 et 20% de son poids initial, une intolérance gastrique, des nausées, des vomissements de bile, une jaunisse, ictère, une faiblesse musculaire accompagnée de douleurs, des frissons, une baisse de l'audition, des troubles de la vue, des hémorragies rétiniennes pouvant même entraîner une cécité, des hémorragies gingivales, gastro-intestinales et œsophagiennes, l'assèchement et l'écaillement de la peau, des sautes d'humeur. Ce que dit la personne privée de nourriture devient incompréhensible. Quand 30 à 50% des protéines que contient le corps ont été épuisées, entraînant une dégradation très importante des tissus, ou que l'individu a perdu 50% de son poids initial, difficile de faire machine arrière. Il peut ressentir comme une forme d'euphorie, avant de sombrer dans un coma profond, souvent accompagné d'une respiration de Chain-Stokes, une anomalie du rythme respiratoire périodique, et d'une insuffisance cardiaque. La mort survient alors rapidement, au bout de quelques heures. Dans des conditions extrêmes, telles que celles qu'ont connues Nando et ses camarades, nul doute que tous ces processus sont accélérés. Le pacte. Obsédés par la faim, la plupart des survivants des Andes tentent d'arracher le cuir de leurs bagages et de leurs chaussures pour les manger. Malheureusement pour eux, ce n'est pas comestible, et cela leur aurait fait plus de mal que de bien de l'ingérer en raison du traitement chimique du cuir. D'autres déchirent des coussins, dans l'espoir d'y trouver de la paille à mâcher telle une vache laitière dans l'étable, mais sans succès. Carlitos confie alors à Adolfo que Nando est devenu fou, car il veut manger le pilote. À quoi Adolfo répond qu'il n'est pas si fou que ça, et que ses cousins et lui y ont déjà songé. En fait, l'idée verbalisée par Nando germe déjà depuis un certain temps dans un coin de la tête des autres survivants. Tous veulent vivre. Aussi leur faut-il manger les corps de leurs amis morts, qui sont conservés dans le froid, comme une viande dans un congélateur. Nando me décrit cet instant extraordinaire où ses camarades et lui ont franchi le pas. J'ai été élevé de manière très pragmatique par mon père, qui, à mon sens, est l'incarnation du pragmatisme. Il me disait toujours des phrases du type « Les choses sont comme elles sont, et pas comme on aimerait qu'elles soient. La pluie tombe du ciel, et l'eau s'amouille. Si tu veux quelque chose, il faut travailler dur pour l'avoir. » Je savais que nos chances de nous en sortir étaient faibles. Si nous voulions gagner du temps et attendre l'arrivée de l'été, la seule chose à faire, c'était de manger quelque chose. Là où nous avions atterri, c'était comme sur la surface de la Lune ou de la planète Mars. Il n'y avait rien. Mon esprit s'est attaché de manière pragmatique à la seule solution envisageable. Utiliser les protéines issues des corps de nos amis décédés comme source de nourriture. C'est absolument impossible de comprendre la facilité avec laquelle on fait ce cheminement intellectuel lorsqu'on est condamné à mourir de faim. La faim, c'est l'une des peurs les plus fondamentales pour l'être humain. Lorsque les enjeux sont réels, il faut se bouger. Rien à voir avec une discussion théorique quand on est confortablement assis sur un canapé à siroter un bon verre de Merlot. Une situation de survie de cette ampleur, ça change tout. On est confronté à la mort à chaque seconde. De toute évidence, notre éducation nous a permis d'évoluer, retourner en arrière jusqu'à un stade préhistorique pour nous comporter comme les êtres les plus primitifs. Une fois qu'on accepte cela, il n'y a plus de problème et il faut aller de l'avant. On ne se pose pas de questions morales ou éthiques, on ne doit rendre de compte à quiconque. On fait ce que l'on a à faire et c'est tout. Ce n'est pas du cannibalisme. Les cannibales tuaient leurs proies ou leurs ennemis pour les manger avec tout un rituel, mais plutôt de l'anthropophagie. La consommation de chair crue pour survivre, et c'est très différent. Nous avons été, d'une certaine manière, les premiers donneurs d'organes volontaires et conscients de l'histoire. C'est un geste très beau. Ceux qui étaient encore en vie ont conclu un pacte, en donnant leur corps. Combien d'individus ont donné du sang, un rein, de la peau ou quoi que ce soit d'autre pour sauver la vie d'un être cher? C'est exactement ce que nous avons fait. Pour nous, c'était bien plus dur de lutter contre le froid et la soif que de survivre de cette manière. Il est aussi incroyablement facile et rapide de voir à quel point les êtres humains peuvent s'adapter à des circonstances atroces. Pour convaincre ceux que cela répugnait d'avoir à mastiquer et avaler de la chair humaine, Roberto Canessa, l'étudiant en médecine, prend les devants, signale au groupe que ce n'est que de la viande, que leur âme a quitté leur corps et se trouve auprès de Dieu. Nando, soutenant son ami, trouve l'argument choc. Il compare cet acte à l'Eucharistie, faisant une analogie entre le don du corps du Christ et le don de leur propre corps et de celui des personnes déjà mortes à ceux qui en ont le plus besoin. Tous, très croyants, pour preuve les prières que Carlitos organise tous les soirs, sont persuadés que Dieu est parmi eux et que, d'une certaine manière, il leur donne sa bénédiction pour ce qu'ils vont devoir faire. S'il avait voulu qu'ils meurent, ils auraient déjà trépassé. Ils ressentent même une certaine fierté à l'idée de se savoir utile et que, s'ils meurent, le don de leur corps servira à faire vivre. Leur acte n'est donc pas un péché, et ce fameux pacte spirituel qu'évoque Nando, ils le concluent officiellement, en se tenant tous par la main et en se donnant leur accord pour, s'ils mouraient, être mangés par les autres. Le plein de calories. Roberto passe alors à l'action. Il s'est fabriqué un couteau de fortune à partir d'un morceau de plastique des hublots. Son arme à la main, il se dirige vers les corps sans vie, alignés sur le côté gauche du fuselage. Incapable de découper la chair d'un cadavre dont il voit le visage, il en a repéré un qui est retourné. Il retire le pantalon et commence à entailler la chair congelée. Pas si évident que cela, mais il parvient à découper une vingtaine de tranches de chair humaine de l'épaisseur d'une allumette, qu'il met à sécher au soleil sur la carlingue. Montrant l'exemple, il finit par saisir un bout de viande, mais au moment de le mettre en bouche, il est envahi par le dégoût. Néanmoins, Roberto est quelqu'un de déterminé. Il catapulte d'un geste brusque la tranche crue dans sa bouche et l'avale d'un coup sans réfléchir, ni même la mâcher. Il se retourne alors vers les autres. « Je l'ai fait. À vous. » Tous finissent par l'imiter, un à un, conscients qu'ils ne peuvent plus que compter sur eux-mêmes pour s'en sortir. Chaque bouchée réénergise les survivants en leur apportant protéines, lipides, glucides et vitamines nécessaires à leur survie. Ils s'attaquent alors très vite aux autres cadavres. Au fil du temps, quand la faim se fait plus criante, ils finissent par manger quasiment tout. Moelle épinière, eau réduite en poudre, viscères, pieds, mains, cerveau. Une étude récente sur l'anthropophagie menée par le docteur James Cole, paléontologue à l'université de Brighton, a d'ailleurs détaillé la valeur calorifique de certaines parties du corps comestible. Ainsi, sur la base d'autopsies réalisées sur 4 hommes morts âgés entre 25 et 60 ans et pesant de 53,8 à 73,5 kg, il apparaît que l'apport calorique total est de 125 822,25 calories, pour un poids corporel de 55,26 kg. Manger le haut des bras d'un congénère vous apporte 7 451 calories, ses avant-bras 1664 calories, ses cuisses 13 355 calories, ses muscles du mollet 4 486 calories, son cerveau, sa moelle épinière et ses troncs nerveux 2 706 calories, ses poumons 1 597 calories, son cœur 651 calories, ses reins 376 calories, son foie 2 570 calories, sa peau 10 278 calories, etc. Au-delà de l'apport calorique, ingérer de la nourriture, et peu importe son origine, alors que vous êtes affamé, est bénéfique pour le moral. Le simple fait de manger de nouveau avait des répercussions positives sur l'état émotionnel des survivants, transformant leurs peurs et leurs doutes en espoir, celui de tenir assez longtemps pour espérer s'échapper de cet endroit maudit à la fonte des neiges. Pourquoi, au bout d'un moment, cela ne les répugnait plus? Parce que leur cerveau leur faisait comprendre que c'était bon pour leur corps. Qu'il s'agisse de boire sa propre urine pour s'hydrater, de manger ses selles pour récupérer des minéraux, de couper son bras avec un couteau à beurre pour se libérer d'un rocher qui l'écrabouille depuis presque 127 heures, Quand il est question de vie ou de mort, notre cerveau inhibe notre dégoût ou les peurs qui pourraient freiner nos élans de survie. L'anthropophagie, que les survivants des Andes ont tournée en rituel d'une sainte communion, leur a aussi permis de réduire leur souffrance physique et le dégoût moral qu'ils auraient pu avoir à mâchouiller un copain. Votre cerveau est un organe conçu pour résoudre tout un tas de problèmes liés à l'adaptation dans un environnement instable. Il a pour mission de vous garder en vie le plus longtemps possible, pour que vous puissiez vous reproduire et ainsi transmettre vos gènes. Et si cela doit passer par de l'auto-conditionnement ou de l'auto-manipulation, pas de problème. L'avalanche. Les émotions positives, grâce à un estomac qui se remplissait petit à petit, reprennent ainsi rapidement le dessus au sein du groupe, atténuant la morosité ambiante. Mais l'embellie est de courte durée. Le lieu du crash est en fait extrêmement dangereux, car très instable. Les 27 survivants l'apprennent à leurs dépens le 29 octobre, soit le 18e jour, quand, en pleine nuit, une masse imposante de neige dévale à toute vitesse le couloir dans lequel il se trouve, détruisant tout sur son passage et ensevelissant le fuselage de l'avion. L'impact du volume de neige est d'une puissance inouïe, et en une fraction de seconde, des tonnes d'eau congelée déferlent à l'intérieur de la carlingue éventrée, engloutissant toutes les personnes qui s'y trouvent. Les survivants, en apnée, se retrouvent immobilisés dans des positions totalement inconfortables sous le poids de la neige. Ils croient d'abord tous mourir, mais deux d'entre eux, Roy Hall et Carlitos, parviennent à se dégager rapidement, et dans les minutes qui suivent, entreprennent alors de libérer les autres de leur piège de glace. Un vrai compte à rebours commence. Malgré tous leurs efforts, les deux secouristes en herbe ne parviennent pas à sauver tout le monde. Chaque fois qu'ils dégagent une personne, cela réduit les chances de survie du voisin. Tout simplement car dans cet espace hyper confiné où tous sont serrés comme des sardines, la neige déblayée chez l'un atterrit chez l'autre. Au final, l'avalanche aura eu raison de 8 survivants, dont la dernière femme, Liliana Metol, réduisant leur nombre à 19. Ceux-là restent enfermés sous la neige, dans le noir, sans eau, suffoquant à cause du peu d'oxygène disponible, forcés de ne pas trop bouger et obligés de manger juste à côté d'eux, leurs amis encore vivants l'instant d'avant. Ils ne savent pas cette fois comment ils vont pouvoir se sortir de ce guépier. Il est alors beaucoup plus tentant de se laisser mourir que de vivre. Mais Nando, véritable force physique et psychique de la nature, trouve une astuce. En tâtonnant la neige autour de lui, il met la main sur un objet allongé, avec lequel il parvient à trouer le plafond, pour laisser entrer un peu d'air. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Nando déclare que sans cette avalanche, les autres et lui n'auraient pas survécu. La neige qui recouvre l'avion a en effet colmaté toutes les brèches, les protégeant des tempêtes qui touchent alors la région, du vent et des blizzards. Aussi, objectivement, cette catastrophe leur a fourni 8 nouveaux corps. Vers l'est ou vers l'ouest. Au bout de 3 jours, les survivants, sous l'impulsion de Nando et de sa formidable soif de vie, parviendront à se frayer un passage et à remonter à la surface. Quelques semaines plus tard, la neige recouvrant le fuselage se met à fondre progressivement, et les petites habitudes reprennent. Certains explorent les alentours, revenant chaque fois dépités. Les conditions de marche dans la neige si épaisse sont difficiles, et nombreux sont ceux qui renoncent. Il leur faut à tout prix mieux s'équiper. Ainsi ont-ils l'idée de confectionner des raquettes à neige avec les coussins des sièges, des cordes et des ceintures de sécurité pour ficeler le tout. Nando est élu chef, notamment à cause de sa volonté extraordinaire de s'en sortir pour retrouver son père, ainsi que de sa relative maturité, lui qui, à 22 ans, est un peu plus vieux que la plupart de ses copains. Il saura leur transmettre cette fameuse énergie du désespoir qui le pousse à toujours aller de l'avant, une impulsion mentale extraordinaire permettant de jeter toutes ses forces dans la bataille finale pour espérer s'en sortir. L'une de ses premières décisions est d'aller explorer le bas de la vallée, chose qu'il fait un mois jour pour jour après le crash, accompagné de Roberto et d'Antonio. Plus bas, à 2 kilomètres de l'épave, les trois explorateurs en herbe découvrent la queue de l'avion, avec, à l'intérieur des bagages, un peu de chocolat et un appareil photo avec une pellicule vierge que Nando emporte avec lui pour prendre des clichés de la vie des survivants. Sait-on jamais? Si quelqu'un trouve la carcasse de l'avion des mois ou des années plus tard, ces photos témoigneront de la ténacité du groupe. 2 mois après le crash, après la mort de 3 de leurs compagnons, 2 de leurs blessures, le 3e parce qu'ils refusaient de manger de la chair humaine, ne reste plus que 16 survivants. La Core Team, constituée des résilients les plus costauds dans leur tête. Mais pour eux, la nourriture se tarit au fil des jours. Il ne reste alors que quelques corps à grignoter, dont la sœur et la mère de Nando, jusque-là épargnés. Il est, selon Nando, urgent de partir vite d'ici et de tenter le tout pour le tout. Il préconise de marcher vers l'ouest, vers le Chili. Certes, la direction est bonne, mais l'appréciation de la distance kilométrique pour l'atteindre était totalement erronée. Les survivants se croient à la lisière entre les montagnes et les vallées verdoyantes chiliennes, et imagine que s'ils partent vers l'est, ils devraient traverser la chaîne des Andes dans toute sa largeur. En réalité, ils sont à vol d'oiseau à égale distance des deux extrémités. Sauf qu'en optant pour une marche vers l'ouest, ils se compliquent sérieusement la tâche, car il leur faut franchir un premier obstacle de taille, une montagne de 4500 mètres qui bloque la route dans cette direction. Roberto, lui, est le seul à préférer intuitivement marcher vers l'est, dont le relief lui semble moins hostile. L'étudiant en médecine a bigrement raison, d'autant plus que marcher dans la direction qu'il préconise les mènerait au bout de 27 kilomètres tout droit vers un hôtel dans la vallée, qui certes est fermé à cette époque de l'année, mais dont les placards regorgent de nourriture en conserve. Cependant, Nando trouve les mots pour le convaincre d'abandonner cette idée et de se rallier à l'avis de la majorité, encore une fois. Il lui demande en outre de l'accompagner, les autres encourageant leur chef à tenter l'aventure, mais préférant pour leur part rester sagement sur le camp. Ce fut finalement très facile de s'entendre avec lui, me confiera Nando, parce que je le connaissais très bien. Il avait un fort caractère, certes, mais cela allait être un atout. Son sérieux, son ingéniosité, ses intuitions et sa pugnacité allaient nous être très utiles pour ce type d'expédition périlleuse. Il avait une bonne vue, était adroit, savait lire une carte et une boussole. Le duo se transforme en trio quand Antonio Vicentin, dit Tintin, décide de faire lui aussi partie de l'aventure. Et ceux qui ne partent pas contribuent à leur manière, préparant une sorte de pack de survie pour les trois courageux. Un sac de couchage avec de l'isolant pour résister au froid, des rations de chair humaine enveloppées dans des chaussettes, ainsi que des bouteilles d'alcool. Dernier carrefour. Le 12 décembre, par une météo plus clémente, Nando embrasse le chapelet de Carlitos et lui confie que si lui et les autres ont besoin de se nourrir, ils ne doivent pas hésiter en dernier recours à manger sa sœur et sa mère. Puis les trois compères s'éloignent. Premier obstacle, et non des moindres, cette fameuse montagne culminant à 4500 mètres d'altitude. L'escalade est rendue difficile par le manque d'oxygène et le fort dénivelé, 700 mètres, de la paroi, avec une pente à 45%. Mais au prix d'efforts surhumains, grâce à une volonté de fer, ils parviennent au bout de 3 jours au sommet, épuisés. Quelle n'est pas leur déception quand tout là-haut, au lieu des plaines verdoyantes du Chili qu'ils attendaient, un tout autre panorama s'offre à eux, pullulant de montagnes, soit autant d'autres obstacles à franchir. Le seul point positif, c'est qu'elles sont moins hautes que celles qu'ils viennent d'escalader. 2 pics sont moins enneigés et nos aventuriers croient apercevoir l'océan Pacifique. Le signe, sans doute, que dans cette direction, la cordillère des Andes se termine. Pour Nando, c'est certain. Néanmoins, Roberto relève un autre détail qui ranime le débat. Roberto était persuadé de voir une ligne au pied de la montagne Sosneado, vers l'est, qui pouvait être une route ou un chemin, signe que le monde civilisé n'était pas loin. C'était à environ 40 kilomètres d'où nous étions. Nous étions faibles et la probabilité qu'il s'agisse réellement d'une route plutôt qu'une cassure géologique était trop faible. Je pensais qu'aller vers l'est était du suicide. Imaginez qu'en descendant, on découvre qu'il ne s'agisse pas d'une route. Cela aurait scellé définitivement notre sort. J'étais convaincu que l'océan Pacifique était à l'ouest et marcher vers le Chili une meilleure option. Il m'a fallu quelques minutes de discussion avec lui. Je l'ai supplié de venir avec moi. S'il n'avait pas été d'accord, je l'aurais laissé seul, et il le savait. Il faut rapidement prendre une décision à ce carrefour, et Tintin reste silencieux face à ses deux fortes têtes. Finalement, Roberto accepte de suivre son ami. Mais sachez que s'il l'avait écouté, il serait tombé au bout de 3 jours sur une route, qu'il s'agisse ou non de celle qu'il avait cru voir. Leur décision est prise. Le couac, c'est que marcher vers l'ouest va prendre des jours, voire des semaines. La peur de l'inconnu les gagne, mais hors de question pour Nando de rebrousser chemin. Il sait cependant pertinemment que la nourriture dont il dispose n'est pas suffisante pour subvenir aux besoins de 3 hommes contraints à des efforts physiques d'une rare intensité. Ainsi décide-t-il de renvoyer Tintin au camp de base et de conserver une partie de ses rations. Tintin accepte sans rechigner, d'autant qu'il est piètre grimpeur et qu'il ralentit les 2 autres. Tout repose à présent sur les épaules de Nando et Roberto, partis dans une expédition qui pourrait leur coûter la vie. Ces derniers vont devoir défier toutes les lois de l'alpinisme, en franchissant à l'arraché et dans des styles peu académiques, une à une, ces satanées montagnes. Bien qu'amaigri, il a perdu 30 kilos et diminué, Nando est plus en jambes que Roberto, qui a perdu moins de poids, 20 kilos, mais est atteint d'une infection grave touchant l'intestin grêle. Malgré des rythmes de croisière différents, des engueulades ici et là, ils avancent tout de même ensemble, par effet élastique. Nando marche en tête, tirant sur cet élastique invisible qui le lie à Roberto, en exhortant son copain, quand il est trop loin derrière, à se bouger les fesses et à avancer pour recoller au wagon. Ainsi parviennent-ils à gagner ensemble, de manière saccadée, la vallée de Los Maitenes, au pied du massif des Andes, et à y établir là-bas le contact, avec Sergio Catalan, un huasso chilien, l'équivalent d'un cow-boy américain qui promène son troupeau. Leurs premiers échanges sont insolites. Ils sont séparés par une rivière d'une 30aine de mètres de large, au courant très violent et infranchissable à pied, et le bruit de l'eau est si fort qu'il couvre leur voix. Mais Sergio a l'idée de leur lancer par-dessus le torrent un bout de papier avec un stylo, enveloppé avec une pierre dans un mouchoir. Nando se saisit alors du stylo et lui écrit quelques mots, ici en raccourci. Nous venons de l'avion qui est tombé dans les montagnes. Nous avons marché pendant 10 jours. Dans l'avion, il y a encore 14 personnes accidentées. Nous n'avons rien à manger. Nous sommes épuisés. Où sommes-nous? Quand viendrez-vous nous chercher? Au secours. Le colis renvoyé avec succès à son expéditeur, ils observent alors attentivement le paysan déplier le papier et lire. Ce dernier relève alors la tête, les regarde avec stupéfaction et leur fait comprendre qu'il a bien compris leur situation. Avant de s'en aller, il leur jette un pain que les 2 affamés mangent en pleurant de joie. 10 heures plus tard, il reviendra avec les secours. Le miracle des Andes. Au bout d'un trek périlleux de 10 jours et 10 nuits, les 2 hommes sont définitivement sauvés. Les autorités uruguayennes annoncent la nouvelle à la radio, ce qui provoque une frénésie collective chez les 14 autres survivants, tout ouïe devant leur poste de radio portatif au milieu des Andes. Le 22 décembre 1972, soit 72 jours après le crash du charter, Nando guide les secours vers le lieu où se trouvaient les autres survivants, prenant un nouveau risque en montant à bord d'un hélicoptère de l'armée qui, lorsqu'il se met à voler au-dessus de la chaîne montagneuse, dans des conditions climatiques difficiles, rappelle à notre héros les secondes qui ont précédé le crash de l'avion. Mais les survivants peuvent être secourus et immédiatement hospitalisés. Cette histoire fait le tour du monde. On parle alors du miracle des Andes, puisque le sauvetage des survivants est intervenu juste avant Noël. Mais lors d'une conférence de presse, à la question « Comment avez-vous fait pour survivre dans de telles conditions ?» question jusque-là soigneusement esquivée, l'un d'entre eux dévoile comment ils ont pu s'alimenter, justifiant leur acte anthropophagique par l'analogie avec le dernier repas du Christ, offrant son corps et son sang. Cette confession, jugée extrêmement dérangeante, déchaîne les critiques des médias du monde entier et d'une partie de l'opinion publique qui les compare à des cannibales ou des bêtes sauvages assoiffées de sang. Exception faite dans leur pays d'origine, où ils sont au contraire considérés comme des héros nationaux. L'évêque auxiliaire de Montevideo, Mgr Andrés Rubio, sera l'un des premiers à les défendre, assimilant leur action à une greffe ou un don d'organes, et invitant les survivants à ne pas trop se tourmenter. Ces propos seront soutenus par sa hiérarchie, en l'occurrence l'archevêque de Montevideo, ce qui aura pour effet de calmer les esprits. En revanche, la rumeur, qui court toujours, selon laquelle le pape Paul VI leur donna l'absolution de l'Église, est fausse, comme me le précise Nando. Je n'ai jamais vu le pape de ma vie. D'ailleurs, pourquoi devrait-il nous donner une absolution? Nous n'avons jamais commis de péché. L'heure du bilan. Nando me liste alors le top 5 des émotions les plus intenses ressenties par le groupe durant cette aventure extraordinaire, par ordre d'intensité. En une, je dirais la peur. Nous l'avons ressentie chaque jour, chaque heure, chaque minute, puisque nous étions condamnés à mourir. La peur vous donne du courage. La panique vous tue. En deux, le bonheur, quand mes camarades ont entendu le bruit des hélicoptères des sauveteurs. Cela voulait dire qu'ils allaient vivre. En trois, la dépression. Passer 72 jours sous la menace constante de la mort vous plonge psychiquement dans un trou profond dont il est très difficile de ressortir. En quatre, même s'il ne s'agit pas d'une émotion à proprement parler, je dirais l'amitié. Tout le monde a donné 100% pour le groupe. Enfin, la colère. Nous nous sommes tous demandé pourquoi cela nous arrivait à nous. Qu'avions-nous fait de mal dans nos vies pour mériter cela? Nous étions en colère face à cette injustice qui a coûté la vie à 29 personnes. Ce genre de fait divers qu'on peut lire dans le journal en prenant son petit déjeuner n'arrive qu'aux autres. Nando se sent-il encore contaminé aujourd'hui par les émotions toxiques qu'il a éprouvées pendant cette aventure? En 46 ans, je n'ai jamais fait de rêve ou de cauchemar relatif à cette épreuve. Depuis la première nuit où j'ai dormi à l'hôpital San Fernando, l'hôpital dans lequel moi et les autres survivants avons été hospitalisés après avoir été retrouvés au Chili, probablement avec l'aide de médicaments, ajoute-t-il en souriant, je dors profondément. Je fais des rêves, bien sûr, mais jamais liés à cette expérience. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mais je ne souhaite pas le savoir non plus. Ma charmante épouse dit que quand je me couche, je ne m'endors pas, je m'effondre. Peut-être est-ce mon éducation pragmatique. Les choses sont comme elles sont. Le premier jour après mon retour au pays, je me suis rendu à notre maison de vacances, à la plage, et j'y suis resté 2 mois. Je savais qu'en regardant en arrière, je n'arriverais qu'à une chose, me faire un sacré torticolis. J'ai toujours vécu les choses au présent, et pas au passé. Beaucoup de survivants européens et anglo-saxons, que ce soit après une guerre, un attentat, une catastrophe naturelle ou un accident, ressentent de la culpabilité parce qu'ils s'en sont tirés quand d'autres sont morts. Je me suis toujours dit que j'avais eu la chance de survivre à l'insurmontable, alors pourquoi aller voir un psy ou consulter quelqu'un? Qui en saurait plus que moi sur ce qui s'était réellement passé là-bas? Certains survivants de tragédies ont besoin d'une aide psychiatrique. Ils vont à l'hôpital, prennent des médicaments. D'autres boivent de l'alcool pour oublier. Certains se suicident. Pourquoi? On nous a donné la chance de vivre une seconde fois, de renaître de nos cendres, et certains individus la gâchent. Moi, j'ai décidé que j'allais vivre ma vie, et je vous assure que j'en ai une sacrée de vie. J'ai travaillé dur, fait du sport, fondé une magnifique famille. J'ai de super enfants et de beaux petits-enfants. J'ai réussi, professionnellement et sportivement, bien mieux que ce que je pouvais m'imaginer étant plus jeune. Je n'ai jamais regardé dans le rétroviseur. Ce qui a changé dans ma vie? Rien. C'est ça ma vie. Et le crash de l'avion, et tout ce qui a suivi, en fait juste partie. Se déculpabiliser. Petit aparté sur la culpabilité, précisément celle ressentie par celui qui survit vis-à-vis de ceux qui sont morts. Mike Groom, un alpiniste australien que j'ai pu également interviewer, la connaît bien cette émotion, puisqu'il vit avec elle depuis longtemps. En 1996, ce grimpeur qui fait partie du tout petit club d'êtres humains à avoir réussi à franchir les 5 plus hauts sommets du monde sans oxygène, était l'un des guides d'Adventure Consultants, une société dirigée par le guide néo-zélandais Rob Hall, auteur lui aussi d'impressionnants exploits en montagne, qui proposa à quelques clients de faire l'Everest, 8848 mètres. Mais l'expédition tourna mal. Cette catastrophe est d'ailleurs considérée comme l'une des plus meurtrières en haute altitude, puisqu'au total, 8 alpinistes y perdirent la vie, pris dans une tempête de neige épouvantable lors de la descente. Parmi les 6 grimpeurs faisant partie de l'équipe de Rob Hall et qui parvinrent à atteindre le sommet principal, 2 seulement, Mike Groom et le journaliste américain John Krakauer, ont survécu. Ce dernier a relaté cette tragédie dans un livre devenu un best-seller et qui sera adapté au cinéma, Into Thin Air, dont certains pensent qu'il déclencha, paradoxalement, l'Everest Mania et les premiers embouteillages dans l'ascension du célèbre sommet au début des années 2000. Michael Groom me confia la chose suivante. Je suis le seul guide de l'expédition de l'équipe de Rob Hall, lui-même décédé, à avoir survécu, et à ce titre, j'ai ressenti une incroyable culpabilité qu'il m'arrive d'éprouver encore parfois aujourd'hui. C'est une bactérie qui ne se soigne pas à coups d'antibiotiques. Très tôt dans ma carrière d'alpiniste dans l'Himalaya, j'ai appris que si je jouais à ce petit jeu-là longtemps, prendre le risque de gravir des sommets de plus de 8000 mètres, tôt ou tard je finirais par être impliqué dans un accident sérieux. Aussi les événements de 1996 n'ont-ils pas vraiment été pour moi une surprise. Cela peut paraître bizarre à dire, mais on s'attend à vivre ce type de catastrophe un jour ou l'autre lorsqu'on joue à la roulette russe. La culpabilité, Michael Groom l'a particulièrement ressenti quand il a laissé pour mort Beck Weathers, un médecin anatomopathologiste. En redescendant du sommet principal, il croisa le chemin de Beck. Il était assis là dans la neige, attendant le retour de Rob Hall. Il avait perdu la vue plus tôt ce jour-là et faisait une pause. Rob lui avait dit de l'attendre à cet endroit jusqu'à ce qu'il redescende du sommet. Beck était mal en point et jamais il n'aurait pu atteindre le toit du monde, ce qui représentait un vrai échec pour lui. Dès lors, j'ai décidé de nouer une corde autour de sa taille que j'ai attachée à mon harnais. J'ai fait ensuite de mon mieux pour le guider et le redescendre sain et sauf le long de certaines portions très dangereuses de la montagne. Les conditions climatiques étaient dantesques, avec un vent extrêmement fort, un manque de visibilité et des températures très basses. Je ne parle même pas du manque d'oxygène à ces altitudes. Plusieurs fois, Beck est tombé, manquant de faire une chute fatale. Il ne pouvait rien voir, mais moi, oui. J'étais, en quelque sorte, ses yeux. À 18h15, alors que le soleil se couchait, nous avons croisé Yasuko Namba, une alpiniste chevronnée qui faisait partie de l'expédition, affalée dans la neige. Elle n'avait plus d'oxygène. J'étais très déçu que John Krakauer, parti en tête, l'ait abandonnée alors que je leur avais demandé de rester ensemble. Avec Beck, j'étais déjà bien occupé, mais là, avec Yasuko, j'étais totalement dépassé par les événements. Une pause s'imposait. Ils passèrent alors une nuit très difficile dans la zone de la mort. Le lendemain matin, Mike Groom prit une décision importante. J'ai décidé de laisser Beck et Yasuko, qui étaient beaucoup trop faibles pour marcher, sur place, pour aller au camp numéro 4, C4, situé à 8000 mètres d'altitude, afin d'y trouver de l'aide. j'étais convaincu que c'était notre seule chance de survie. En arrivant au C4, j'étais à bout de force. On m'a traîné dans une tente pour m'y administrer les premiers secours. Je crois avoir donné des instructions pour venir en aide à Beck et à Yasuko, qui se trouvaient à 300 ou 400 mètres au-dessus du C4. À ces altitudes, avancer d'un mètre demande des efforts considérables. Il me semble que le docteur Stuart Hutchinson ait désespérément essayé de les trouver dans le blizzard, mais en vain. Il a réessayé après le lever du soleil et les a trouvés, mais n'a pu que prononcer leur décès. Beck était donc, pour moi, mort. J'ai retrouvé mes esprits en milieu d'après-midi, lorsque j'ai reçu un appel de notre camp de base me demandant de redescendre rapidement au C2, les personnes du C4. N'étant pas en état, j'ai dit que je le ferais le lendemain matin. Le lendemain matin, je suis sorti de la tente et ai informé les personnes présentes sur le camp que nous devions partir à 8 heures. En retournant à mon bivouac, j'ai vu deux bottes dépassant d'une tente qui n'appartenait pas à notre groupe. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur pour constater que ces bottes étaient celles d'un corps inerte, gisant sous un sac de couchage. Les deux portes de la tente étaient ouvertes, ce qui laissait pénétrer le vent mortellement glacial. Je suis parti du principe que la personne était décédée. J'avais vu tout un tas d'alpinistes morts et congelés pendant cette expédition, et n'avais donc pas besoin de savoir de qui il s'agissait pour enrichir encore plus cet horrifique album photo. Nous avons donc quitté le C4 à 8 heures, comme convenu. Quelques heures plus tard, nous étions au C3, situé un peu au-dessus de 7000 mètres, où nous attendait une équipe de secours venue à notre rencontre. Elle se disait prête à poursuivre jusqu'au C4, ce qui me surprit. Je leur demandais pourquoi ils comptaient monter là-haut alors qu'il n'y avait plus personne. Ils ont fini par me lâcher l'info. Beck Weathers était en fait toujours en vie. C'était lui qui se trouvait sous le sac de couchage, dans la tente ouverte. Beck avait trouvé miraculeusement les forces de se relever et d'atteindre le camp pendant la nuit sans que je m'en aperçoive. Apparemment, d'autres membres de l'équipe savaient pour lui. L'idée d'avoir abandonné Beck en route m'a rendu malade. Je me suis posé la question de savoir pourquoi l'on m'avait caché la vérité. Avec le temps, je suis arrivé à la conclusion que les autres voulaient me préserver, sachant que j'avais atteint mes limites et que je devais me concentrer, avec le peu de force qu'il me restait, à faire redescendre des personnes encore capables de se mouvoir. Pendant longtemps, je me suis senti coupable d'avoir lâché Beck. Mais j'ai appris à vivre avec. Pour se déculpabiliser, ou du moins atténuer cette sensation désagréable, l'esprit humain cherchera toujours à trouver des excuses, qu'elles soient légitimes ou non. Celles évoquées par Mike tiennent la route et l'aident à se reconstruire. Je pense que Beck doit assumer sa part de responsabilité dans cette histoire. En effet, il avait subi une opération chirurgicale peu de temps avant l'ascension de l'Everest et savait que plus il monterait en altitude, plus ses yeux en pâtiraient. Le plan qu'il avait élaboré et qu'il s'était évidemment gardé de nous dire, c'était donc de grimper aussi haut que possible avant de perdre la vue, puis de se reposer sur un guide qui le redescendrait. Ce qui, à mon sens, était une stratégie aussi douteuse que risquée. Car Beck a survécu à toutes ces péripéties, laissant au passage dans la montagne, entre autres, son nez, quelques orteils et ses deux mains. Ce qui ne semble pas avoir altéré son humour. « On m'avait prévenu, déclara-t-il, que cette expédition me coûterait un bras. Il ne pensait pas si bien dire. » Mike Groom et tous ceux qui ont croisé la route de Beck ont ressenti de la culpabilité, et les remords que cette émotion suscita jamais ne s'effaceront vraiment de leurs esprits. Même si, comme le dit Mike Groom, dans la zone de la mort, quand vous luttez contre les éléments, il n'y a pas de bon ou de méchant. Tout le monde fait comme il peut pour s'en sortir. Un risque de torticolis. À Nando, j'ai posé une question qui hantait mon esprit. Beaucoup de personnes ayant subi un événement traumatique bloquent ensuite sur certains détails de leur quotidien qui leur rappellent même inconsciemment ce qu'elles ont vécu. Ainsi, une personne ayant été agressée sexuellement par un homme portant sur lui un parfum particulier risque d'angoisser ou d'avoir des haut-le-cœur chaque fois qu'elle respirera cette même odeur. Quelqu'un s'étant fait mordre par un serpent venimeux développera une phobie de cet animal. Ainsi ai-je demandé à Nando ce qu'il ressentait en mangeant de la viande, si, bien sûr, il en mangeait toujours depuis son aventure andine. Ici, en Uruguay, nous sommes très fiers d'avoir la meilleure viande du monde, avec un goût incroyable et une texture excellente. Tous les Uruguayens aiment faire des barbecues en cuisant la barbaque au feu de bois, et non avec du charbon. Et oui, j'adore manger de la viande. Et quand j'ai dans mon assiette face à moi un beau steak, aucune pensée particulière ne me vient à l'esprit. Ta question est très anglo-saxonne. Nous sommes des Sud-Américains. Nous ne regardons jamais en arrière, et celui qui le fait souffrira, me répète-t-il un brin rieur, d'un torticolis. Une valeur refuge. À la fin de notre entretien, je lui demande quel conseil il nous donnerait pour nous aider à nous décontaminer émotionnellement de tout ce qui vient polluer notre quotidien. Après m'avoir précisé qu'il n'est ni psy ni chercheur en psychologie et qu'il n'a donc pas de prescription avisée à nous communiquer, il me livre cet avis. La chose la plus importante, c'est d'être vivant. L'être humain dispose de ressources extraordinaires, et selon lui, il ne faudrait pas attendre d'avoir expérimenté une situation extrême comme celle qu'il a vécue pour s'en rendre compte. C'est d'ailleurs à peu de choses près ce que m'a aussi confié Vilko, le survivant du K2. L'être humain est capable de plus qu'on ne le croit. Nous sommes robustes et pouvons nous relever de tout un tas de situations qui s'annoncent au premier abord critiques, voire mortellement dangereuses. Et aussi difficile que cela puisse paraître, je ne me suis jamais senti en colère envers le K2. Les gens continuent à me dire que la montagne m'a pris beaucoup, mais moi, je porte un regard différent sur elle. Je pense qu'au contraire, la montagne m'a tout donné. Elle a été un révélateur de mes propres forces psychiques. Tous les aléas émotionnels de la vie, chagrin, moment de blues, déception amoureuse ou professionnelle, colère, pic d'angoisse, doute, etc., peuvent être absorbés et digérés par la vie qui doit suivre son cours. Notre existence est faite de hauts et de bas, et nous la trouvons souvent compliquée. Mais comme le dit Nando avec sa verve habituelle, « Si vous étiez mort ou jamais né, votre vie serait beaucoup plus simple. » Même si cela n'est pas toujours facile, il nous invite à relativiser, et surtout à psychiquement investir de notre temps et de notre énergie dans des valeurs de vie refuge, dont la plus importante est la famille. Quand il était prisonnier dans les montagnes, ce qui a permis à Nando de ne pas flancher, c'est qu'il pensait à son père. C'est la même valeur, bien plus précieuse que l'or ou l'immobilier, qui a sauvé Beck, le survivant de l'Everest revenu d'entre les morts. Il confia à la presse que, alors qu'il se trouvait dans la zone de la mort à quelques centaines de mètres du camp, recouvert de glace, si près de mourir, sa famille lui est apparue aussi nettement que s'ils avaient atterri en chair et en os, et l'idée de ne plus la revoir lui avait paru inacceptable. Cela lui donna la force incroyable de se relever et d'avancer face au vent, après avoir abandonné tout son matériel. De même aussi pour Wilco van Rooyen, survivant du K2, qui m'expliqua être revenu de l'enfer pour son fils. Cette expérience m'a rendu plus conscient. Je vis les moments de vie aujourd'hui comme un temps de jeu supplémentaire. Dans les moments difficiles, les choses matérielles n'ont soudain plus aucune valeur. Nando dit bien avoir compris que le besoin de ressentir l'affection des siens, et de surtout donner de l'amour à sa famille, est la seule chose qui nous permet d'évoluer positivement dans la vie, et d'affronter avec sérénité les embûches placées sur notre chemin. Seul compte désormais pour lui les actes de tendresse et d'affection, comme les 12 étreintes qu'il partageait avec ses filles avant de les coucher. Tout le reste est dérisoire. Cette aventure extraordinaire aura aussi boosté le capital confiance de Nando et des autres survivants, qui, pour la plupart, ont connu des trajectoires de vie hors du commun. Roberto, devenu chirurgien cardiothoracique, est une figure politique dans son pays, qui a même été candidat en 1994 à la présidence de l'Uruguay. Quant à Nando, c'est aujourd'hui un homme d'affaires important, à la tête de 6 entreprises, auteur d'un best-seller, Miracle dans les Andes, conférencier de haut vol et navigateur hors pair, que certains croiseront peut-être sur son voilier en Méditerranée. Il se dit capable de prendre des décisions dans sa vie privée et professionnelle à cause de tout ce qu'il a vécu dans les Andes. Quand j'étais au sommet d'une montagne culminant à 4500 mètres d'altitude avec mon ami Roberto, et que le paysage qui nous entourait était si hostile que nous étions certains de mourir, nous avions voulu rester maîtres du jeu, en décidant par nous-mêmes comment nous allions périr. Cette décision d'aller affronter les montagnes a été prise en l'espace de quelques minutes. Les décisions que j'ai à prendre aujourd'hui ne me semblent pas plus difficiles ou compliquées que celles de choisir sa propre mort. Cela me fait penser à ce que m'avait dit un jour Thierry Boiron, le célèbre patron des laboratoires du même nom, qui considérait que nous ne prenons pas assez de décisions dans nos vies. Il nous faut retrouver le courage de faire des choix pour ne pas subir le cours des choses, en restant au contact de ses propres émotions intérieures, sans être pollué par celles négatives venant de l'extérieur. Une décision ne peut être bonne que si elle a été prise, même si cela ne garantit pas de gagner. L'esprit de cordée. Dans ce chapitre dédié à l'alpinisme, il était impossible de ne pas aborder la fameuse cordée qui relie, tant corporellement que psychologiquement, les alpinistes entre eux, et qui, en soi, symbolise le phénomène de contagion émotionnelle. Chose amusante, on dit que ces cordes qui les relient possèdent une âme. C'est le nom de l'intérieur de la corde, autour de laquelle s'enroule la gaine protectrice. Cette âme relaie, de manière imagée, les émotions des alpinistes attachés les uns aux autres. Pour en témoigner, j'ai interrogé Éric Decamp, guide de haute montagne à Chamonix depuis plus de 40 ans, qui a participé à de nombreuses expéditions tant dans l'Himalaya, les Andes péruviennes et argentines, qu'en Antarctique, au Groenland, aux USA, en Afrique et bien sûr dans les Alpes, aussi connu pour avoir pratiqué l'alpinisme d'expédition avec Catherine Destivel, son ex-compagne. Il m'a répondu par un récit qu'il a intitulé « Émotions à cordes tendues » et dont je livre ici de très larges extraits. Nous sommes en septembre 1990, à quelques jours de ce 5 octobre où j'aurai la joie de me tenir debout au sommet de l'Everest, mais je ne le sais pas encore. Dans l'immédiat, je suis au deuxième camp d'altitude, à 6500 mètres dans la combe ouest, un glacier en faux plat qui s'élève progressivement sur plusieurs kilomètres. Devant moi, vers l'amont, s'étend le fond de ce bassin glaciaire et se dressent les pentes qui donnent accès au col sud. Le troisième camp se situe à 7470 mètres sur un petit replat dans cette face. Le quatrième et dernier au col sud, à presque 8000 mètres. Les pentes qui y conduisent sont assez uniformes et ne présentent pas de difficultés particulières, sauf entre les camps 3 et 4, où l'on franchit deux passages plus techniques, l'éperon des Genevois et la bande jaune. Toute la pente a été équipée en cordes fixes, qui constitue la plupart du temps une sorte de ligne de vie, principalement utile pour sécuriser la progression, et pour ces deux derniers passages, facilite le franchissement. Mon ami Marc Battard m'a demandé de superviser l'organisation de cette expédition qui a pour but de lui permettre de réaliser un nouvel exploit sur cette montagne. Parmi les personnes qui se sont jointes à nous, un ami de longue date, Yves Le Bissonnet, avec qui j'ai vécu de belles histoires, notamment sur la paroi du Kétil, au Groenland. Yves est handicapé depuis l'âge de 17 ans. Sa jambe gauche est amputée au-dessus du genou. Il marche, grimpe, skie, avec une prothèse. C'est un sportif accompli et un excellent alpiniste. En cette fin d'après-midi, j'entends tout à coup sur mon talkie-walkie un appel d'Yves. Il est quelque part au début de la longue traversée qui mène au col sud après les deux passages difficiles. Il vient de faire une chute, une glissade entre deux cordes fixes. Sa voix traduit beaucoup d'inquiétude. Il est seul. Il doute de parvenir au camp 4 sans aide ou assistance. La nuit est en train de tomber. Aussitôt, Marc est présent sur les ondes depuis le camp de base. Il cherche à aider Yves, mais il est loin, et ne peut avoir aucun contact visuel. Il y a une grande anxiété dans sa voix, et je crains qu'elle aggrave l'inquiétude d'Yves. De là où je suis, je ne peux voir Yves autrement que comme un petit point dans le lointain, même à la jumelle. Mais c'est déjà très différent. Le contact radio peut être renforcé par un contact visuel. De manière assez autoritaire, je demande à Marc de ne plus se mêler de ce problème, et j'exige d'être le seul interlocuteur d'Yves. Rien de pire qu'une situation déjà difficile où nul ne sait très bien qui parle à qui et qui s'occupe de quoi. Deux choses me semblent urgentes. Prévenir le col sud pour que quelqu'un se prépare à descendre à la rencontre d'Yves. Accompagner Yves dans sa montée. Prévenir le col sud, c'est assez vite réglé. À partir de ce moment, je donne quelques indications pratiques à Yves. Ce qu'il va rencontrer, comment sont les cordes fixes, etc. Mais surtout, je ne le lâche plus. La nuit est tombée. Son inquiétude risque de monter en flèche. Il se sent vulnérable et il m'importe de toujours rester en contact avec lui. Lorsqu'il avance, sa lampe frontale éclaire son chemin et je ne peux pas le voir. Pour savoir où il est et sentir comment il vit la situation, pour pouvoir l'informer de son avancée et ainsi le rassurer, je lui demande de temps à autre de tourner sa lampe vers moi, afin que je le localise et nous avons un court échange par radio. Puis je réalise que ses arrêts, sortir la radio, parler, sont pour lui une contrainte et un effort supplémentaire. Pour en faire l'économie, puisqu'il a la radio allumée sur lui et qu'il peut m'entendre, je lui demande simplement de tourner la tête vers moi de temps en temps. La rapidité à laquelle il réagit m'informe de son état de fatigue et pourrait m'alerter sur une situation de détresse plus grande. Je le tiens au courant de sa progression, ainsi que de celle des alpinistes venant du col sud à sa rencontre. Puis la rencontre a lieu. Yves arrive au col sud sain et sauf. Il vient d'atteindre l'altitude symbolique des 8000 mètres. Voilà ce qu'il m'en dit aujourd'hui, lors d'un échange de mails que nous venons d'avoir au sujet de cet épisode. Quand j'y repense, le souvenir est toujours très intense, mais peut-être faussé. Il me semble que mon appel était à la fois un message d'information, vous voyez, je suis presque arrivé au col sud, et un appel au secours. Aidez-moi, je suis en difficulté. Et j'ai le souvenir d'avoir ressenti une certaine fierté naïve en entendant le ton incrédule de ta voix se demandant ce que je faisais là-haut tout seul, et en même temps un grand soulagement de savoir que j'avais pu prévenir de ma présence et d'entendre le ton rassurant de ta voix me donnant les conseils pour rejoindre le camp au col. Les deux ont dû me booster pour arriver à bon port. De mon côté, lorsque je repense à cet événement et à ses ressorts, il y a bien sûr avant tout cette relation amicale entre Yves, Marc et moi, assortie d'une confiance qui a donné de la clarté à nos interactions. Il y a aussi pour moi un tressage intime entre notre capacité à comprendre ce qui se passait, la circulation de nos émotions et l'importance de donner à ce qui nous reliait le plus de matérialité possible. Être à vue, se parler, pouvoir s'envoyer des signes ont été déterminants. Il fallait cette matérialité pour rendre efficace la circulation des émotions et la communication entre nos intelligences de la situation. J'y vois l'inséparabilité de la raison, du corps et des émotions. L'évidence de l'émotion. Pour nous permettre de mieux saisir les origines de cette vision des choses, Eric nous livre en quelques mots ce qu'il a fait entrer en alpinisme, lorsqu'à 18 ans et demi, il a intégré l'école polytechnique. Il connaissait le milieu montagnard grâce à ses parents, qui les y emmenaient en vacances, son frère et lui, en été comme en hiver, du côté du Jura, puis du Chablais. Mais l'attirance pour la haute montagne et la verticalité est venue de rencontres étudiantes pendant ses années de classe préparatoire. Un ami parisien, au pas sûr et très montagnard, un ami grenoblois dont la famille fréquentait les glaciers et un complice normand avec qui il fit ses toutes premières escalades sur les falaises de la Seine et les premières longues voies du massif du Mont Blanc. Le mathématicien en herbe que j'étais alors avait ressenti la saveur et le plaisir de la démonstration élégante, celle qui nous permet de trouver au problème le plus difficile possible la réponse la plus aisée possible. Je retrouvais cela en escalade. Se confronter à la difficulté et trouver à la franchir avec la plus grande facilité possible, au moins en apparence. C'est cette recherche constante du plaisir que procure le fait de se sentir à l'aise dans la difficulté, du plaisir de l'effort intense sans douleur destructrice, qui me fait me considérer, en tant qu'alpiniste, comme un paresseux paradoxal, qui ne rechigne pas devant l'effort et l'entraînement pour peu qu'il permette d'accéder à la réalisation élégante des objectifs les plus ambitieux. Il ajoute cependant, mais il y eut très vite autre chose que cette jouissance quasi intellectuelle. Quelque chose de plus essentiel. Ce que cette pratique, cette discipline, l'escalade, l'alpinisme, demande d'engagement simultané et à part équivalente de la raison, du corps et des émotions. J'avais jusque-là un vécu qui privilégiait la raison, la logique, la résolution de problèmes, la pratique des mathématiques. Je n'avais aucun goût particulier pour les activités sportives et je n'étais sans doute pas très assuré de l'usage approprié de mes émotions, à supposer qu'on puisse l'être un jour. Et je venais de trouver là l'assise d'un équilibre qui me permettrait de prendre l'élan auquel j'aspirais. Trois pieds sur lesquels se tenir. L'évidence de la raison, c'est celle de la préparation d'une sortie, de l'évaluation des difficultés qui nous attendent, des décisions à prendre, des choix à faire pour emporter dans son sac à dos ce qu'il faut, mais surtout pas plus. L'évidence du corps, c'est l'exigeante technicité qu'il faut acquérir, l'omniprésence de l'effort physique, l'expérience de l'inconfort et parfois de la douleur. L'évidence de l'émotion, c'est en premier lieu de constater que le même enchaînement de gestes, d'équilibre et de déséquilibre plus ou moins précaires n'est absolument pas vécu et accompli avec la même tranquillité selon que l'on est à 1, 10, 100 ou 1000 mètres au-dessus du sol. L'évidence de l'émotion, c'est aussi cette moiteur des mains à l'approche d'un passage que l'on craint, cette accélération du rythme cardiaque lorsqu'un bruit inquiétant entre dans le champ auditif avant que l'on ait pu en identifier l'origine, cette reprise en main de soi par la respiration lorsque dans un passage d'escalade, la précarité de nos appuis nous fait trembler et nous rend aveugles au point de ne plus voir les prises. L'évidence de la relation entre le corps et les émotions, c'est par exemple ce que nous appelons le mal des rimailles. La rimaille est cette crevasse qui raye la base de toute face raide, résultat du cisaillement provoqué par l'écoulement du glacier. Elle est souvent difficile à franchir et constitue le premier obstacle sérieux de l'ascension projetée. Elle est aussi le moment privilégié du conflit entre l'envie et l'appréhension. Elle devient alors parfois le théâtre d'une surprenante somatisation des émotions. Diarrhée, crise d'asthme à l'effort, qui sont les signes d'un délitement subi de notre détermination. Parfois, c'est à ce moment-là que notre corps nous aide, ou nous oblige, à prendre une décision qui s'avérera la bonne. Celle de faire demi-tour. Car c'est le corps qui traduit en symptômes ce que notre intellect se refusait à voir, tant il était sous l'emprise d'un puissant désir. Le nuage qui annonce le changement de temps, la méforme physique du moment, ou tout autre signe jusque-là occulté. Nous vivons chaque jour, en cours d'ascension, des situations qui nous montrent à quel point le corps, la raison et les émotions interagissent. Un grimpeur, même s'il est plutôt cartésien, comme je crois l'avoir été à l'origine, n'a pas trop de difficultés à suivre les hypothèses d'un Damasio neuroscientifique lorsqu'il insiste, dans l'erreur de Descartes, sur le rôle des émotions dans la prise de décision. Nous sommes quotidiennement aux prises avec des émotions qui parfois soutiennent notre capacité d'agir, parfois la parasitent au risque de la paralyser, et peuvent avoir un effet déstabilisant, voire destructeur. De quoi parlons-nous ? D'une émotion esthétique qui, face à tant de beauté, peut faire oublier le danger. D'un enthousiasme aveuglant qui oblitère notre attention. D'un trompeur sentiment de maîtrise. D'une perte de confiance en soi qui fait trembler. De la frustration d'un échec. De la peur et de ses déclinaisons. À corde tendue. Pourtant, poursuit-il, dans le réseau de ces complexes interactions, nous ne sommes pas seuls. Je me souviendrai toujours de quelques mots tracés dans la neige au Janou, en octobre 1987. Je montais vers notre camp 1, quelques dizaines de minutes derrière mon compagnon de cordée, Pierre Béguin. C'était le premier jour de l'ascension d'une semaine qui nous permettrait d'atteindre ce sommet si impressionnant. Nous venions d'essuyer une tempête de neige, durant laquelle je craignais, même au camp de base, dans cette prairie recouverte en une nuit de 2 mètres de neige, l'avalanche. Nous avions vu le ciel s'éclaircir, les vents d'altitude s'installer avec force, et avions décidé de tenter l'ascension en espérant une accalmie à l'approche du sommet. C'était le premier jour. Pierre avait posé sur la neige mes crampons enfouis, mais heureusement signalés par un bambou que j'avais planté là lors de notre dernier passage précédant la tempête. Et il avait écrit « Je continue ». À quoi j'ajoutais dans la neige « Moi aussi ». Le témoignage d'une dynamique émotionnelle entre nous, qui deviendrait un facteur de succès. Comment chacun de nous renforçait l'autre. Ainsi que la matérialisation, par cet échange de mots donnés au vent, du lien qui serait pour les jours à venir celui de la corde et du destin partagé. Car c'est de lien que je souhaite vous parler. Je ne mettrai pas en avant de situations très spectaculaires. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt ce niveau d'alerte que nous devons avoir en permanence, sur la direction que peut prendre un déséquilibre émotionnel. Ces situations relèvent plus d'une attention aux premiers signes de dérive que d'une gestion de crise majeure. Le physicien connaît ce qu'il appelle l'équilibre instable. Lorsque, si l'on s'écarte de l'équilibre, la tendance naturelle est à s'en éloigner encore plus, et non à revenir à la position d'équilibre. L'alpiniste connaît ce que j'appelle volontiers l'équilibre fragile. Lorsque, évoluant sur une ligne de crête, il a vivement conscience qu'en cas de déséquilibre, c'est par une chute que se prolongera sa trajectoire. Émotionnellement, la situation est assez comparable. Il en est des émotions comme, je crois, de la douleur. Plus tôt on les prend, plus on anticipe sur leur installation, plus grandes sont les chances d'en enrayer les conséquences. Alors que si on laisse l'émotion toxique se renforcer, il sera plus difficile d'y remédier. Ce qui se passe entre nous, dans ce registre émotionnel, ressemble à ce qui se produit lorsque nous progressons, comme nous disons, à corde tendue. De quoi s'agit-il ? Nous sommes encordés à deux sur une arête vertigineuse dans une pente raide. Nous avançons en même temps. Je suis en amont de mon compagnon de cordée. Que se passera-t-il s'il tombe ? Si je suis trop loin de lui, s'il y a du mou entre nous, il aura commencé à chuter avant que je puisse intervenir, et il peut fort bien m'entraîner avec lui dans sa chute. C'est pour éviter ce risque que nous progressons à corde tendue. Nous sommes à quelques mètres seulement l'un de l'autre. Proche, donc. Et l'expression « corde tendue » ne signifie pas que l'on tire ou que l'on tend fortement, mais que l'on maintient constamment une légère tension, qui est la matérialisation de notre présence à l'autre. Il s'agit autant d'attention que de tension. C'est cela qui nous permettra de sentir les hésitations de la progression, les à-coups qui traduisent peut-être une fatigue ou une détresse, et qui nous permettra surtout d'enrayer à temps l'amorce d'un déséquilibre, plutôt que de devoir stopper l'élan de la chute. Cette symbolique de la corde tendue, c'est celle de la matérialité de la présence active à l'autre, de l'attention que je lui porte et qu'il sent grâce à cette légère tension de la corde. C'est, plutôt que la prétention à dénouer une crise majeure, l'attention de chaque instant qui permet de percevoir à temps l'amorce d'un déséquilibre et de l'enrayer. C'est la matérialité de ce qui me permet de rassurer l'autre, parce que je l'assure, et d'être plus assuré de moi-même, parce que je le sens plus sûr. La corde est le vecteur privilégié qui facilite la circulation des émotions. En même temps qu'elle nous met en relation physiquement, elle incarne le contact émotionnel. Et selon que l'on est proche ou éloigné, nous pourrons plus ou moins bien exercer cette attention. Parfois, alors même que la corde ne nous relie pas, quelque chose se produit qui relève de la même relation. Une efficacité émotionnelle en l'absence de lien matériel. C'est ce qui avait rendu si fort le souvenir des mots inscrits dans la neige au Janou. Ils étaient la corde tendue entre nous. C'est ce qui avait guidé mes décisions lors de cet épisode à l'Everest. J'avais senti qu'il fallait jouer sur le fait que voir Yves reviendrait à éprouver une moins grande distance entre nous. J'avais senti que la fréquence de nos conversations, des moments où je pouvais voir sa petite lumière dans la montagne, était essentiel pour ne jamais laisser s'installer des temps d'absence trop longs qui risquaient d'accélérer la détresse. Jouer sur le temps, l'espace, la fréquence des échanges était une manière de maintenir cette corde tendue, afin que ma présence, même lointaine, lui soit secourable. Et ce que je ressentais aussi, c'est pour moi une plus grande tranquillité qui se répercutait certainement dans la qualité de ma voix, dans le rythme de mes interventions. Il y avait dans cette contagion émotionnelle une réverbération, un retour vers moi qui la rendait d'autant plus efficace. Je laisse à Yves le dernier mot. Ce qui est étonnant dans le souvenir de cet épisode, c'est que j'avais totalement oublié que j'avais d'abord eu Marc à la radio. Je ne me souviens que de l'échange avec toi. Et que de ton côté, tu n'es plus le souvenir de la cause qui a déclenché mon appel. Une petite glissade dans la neige sur quelques mètres, au passage entre deux cordes fixes, juste avant d'arriver au replat traversé qui mène au camp du col sud. Mais c'est certain que cet échange avec toi, à ce moment-là, a tout à fait joué le rôle d'une corde tendue, qui m'a aidé à remonter jusqu'à la trace, puis rejoindre le camp.